RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
La relation entre deux êtres, elle évolue au fil du temps. Alors, entre les débuts marqués sous le signe de la passion et les amours paisibles des vieux couples, il s'en passe des choses. Néanmoins, la période la plus problématique, ça reste l'avenue des enfants. De nombreux couples, qui pourtant désiraient vraiment fonder une famille ensemble, ne parviennent pas à passer le cap d'amant à celui de parent. Il faut bien dire qu'il se joue de nombreuses choses à cette période. Et c'est ce que l'on va voir en compagnie de Hugues Rennes, qui est gynécologue. Et on va évoquer ce que chacun doit traverser pour rester amant ou maîtresse, tout en devenant père ou mère. Quels sont les écueils à éviter? Pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois? Quelle est l'influence de notre propre famille dans ce moment-là? C'est donc les questions auxquelles Hugues Rennes va pouvoir répondre, lui qui s'occupe beaucoup des couples qui ont tant de mal à devenir parents à cause de problèmes d'infertilité la plupart du temps. Et puis bien sûr, venez témoigner, venez poser vos questions, on vous attend, vous composez le 3216. Après 15h20, notre guide sera Dorian Malovic et il nous emmènera en Chine pour nous faire découvrir la manière dont les Chinois s'aiment aujourd'hui. Les mœurs chinoises sont, semble-t-il, très imprégnées de l'évolution sociale de ce pays qui est toujours en plein bouleversement. Et si vous avez envie de poser une question en particulier ou si vous avez vécu en Chine, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 3216 pour participer également tout à l'heure. Notre fil d'Ariane nous parlera de ses bébés post-mortem. Et puis Camille a testé pour nous un dildo réel. On va parler français, ça sera mieux. Et puis en love conseil, on parlera des odeurs naturelles aujourd'hui. Bonjour Hugues Rennes.
Bonjour Brigitte.
Alors, vous travaillez beaucoup avec les couples qui ont du mal à avoir un enfant, donc hein, parce que l'un ou l'autre, voire les deux, ont des problèmes d'infertilité. Donc la question du désir d'être parent, vous la connaissez par cœur. On voit des couples qui sont vraiment ensemble avec l'idée de fonder une famille, qui ont envie d'avoir des enfants. Et puis, les enfants arrivent et le couple se déchire. Pourquoi ?
Alors en effet, bon, d'abord je m'occupe, c'est vrai, beaucoup d'infertilité, mais aussi beaucoup de grossesse, puisque j'ai écrit des livres à grossesse.
Oui.
Et donc j'ai beaucoup suivi de couples qui voulaient des enfants, qui en avaient. Et je crois qu'en effet, c'est un passage difficile, et je pense que c'est une très bonne idée de faire une émission là-dessus. Je crois que c'est à l'antenne que je disais il y a quelques mois que Jean-Marie Pelt, le biologiste, qui est mort il y a quelques temps maintenant, disait qu'il y a deux choses qui l'étonnaient beaucoup chez les humains, c'est qu'ils se lançaient dans l'aventure du couple sans trop savoir ce qu'ils attendaient, dans l'aventure de l'enfant sans trop savoir ce qui les attendait aussi.
Donc, finalement, on n'est pas loin des animaux, alors.
Voilà, on est un petit peu trop près de l'animal et pas assez dans la réflexion peut-être qui précède, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour aborder cette période le plus sereinement possible.
Alors, quels sont, on va évidemment en parler avec vous qui nous appelez au 3216, hein, mais Hugues Rennes, quels sont les principaux écueils, enfin, qu'est-ce qui fait que on s'aime, on a envie d'avoir un enfant ensemble, on est sur la même longueur d'onde, et pourtant on n'arrive pas à rester ensemble. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je crois qu'il y a d'abord, moi, ce que j'appelle, il y a trois compteurs qu'il faudrait surveiller avant de se lancer dans l'aventure. C'est le compteur de la vie professionnelle. Alors, beaucoup le font, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que avoir une vie matérielle en ordre, avoir une vie sociale en ordre et avoir une vie amoureuse en ordre. C'est-à-dire que, en gros, on puisse se dire, ça va bien dans ces trois secteurs. Je crois que le secteur amoureux, ça paraît évident. Si le couple va mal, se lancer dans l'aventure de l'enfant, c'est quand même très problématique.
On sait très bien que ça n'arrangera jamais le couple. Oui.
Non, on sait bien qu'il y a 40 ans à peu près, 30-40 ans, on conseillait au couple qui n'allait pas bien de faire un enfant et que tout s'arrangerait, ce qui était quand même très utopique et qui ne marchait pas du tout, bien évidemment. Donc il y a d'abord ces trois bases qui ne sont pas toujours respectées dans ce que j'observe, en tout cas dans les consultations classiques, on va dire. Et puis ensuite, il y a en effet le problème du couple et de la durée du couple. Parce que souvent, quand on veut un enfant, bien ça fait peut-être quelques années qu'on est ensemble, mais le couple n'a pas, traversé un certain nombre d'épreuves. Et que donc connaître les épreuves que traverse le couple après la période un peu idyllique dont vous parliez, Brigitte, eh bien il y a des choses un peu plus compliquées qui arrivent parce que nous sommes des personnalités différentes et qu'il faut accorder ces personnalités. Et ça demande, on pourra peut-être en parler, mais ça demande véritablement d'être un peu artiste du couple.
Et alors, moi, il me semble aussi que la sexualité, lorsqu'on devient parent, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, elle va légèrement évoluer et la vision qu'on a de notre partenaire va aussi évoluer dès qu'il est devenu parent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Alors, je crois que c'est vrai dans les premiers temps, mais c'est pas toujours vrai. Alors après, ça va dépendre des personnalités. On va avoir des choses qui sont plus sur mesure que générales. Mais je crois que le plus souvent, on peut retrouver une vie d'amant et d'amante qui était aussi forte qu'avant, à condition que le couple ait évolué, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Et puis je crois surtout que l'arrivée de l'enfant va modifier tout, parce que ce qui est quand même très, très, très frappant, c'est de voir que en une seconde, une fois que l'enfant est sorti et qu'il crie, il sera là 24 heures sur 24, 8 jours sur 8, 12 mois sur 12. Mmh. C'est pas, on n'essaye pas quelques jours, puis on revient, vous voyez, c'est... Et donc ça déstructure beaucoup l'organisation du couple.
On le met pas dans le placard, ça c'est
non.
sûr.
Il y en a qui voudraient, mais on ne le met pas.
Bah, quand on a la chance d'avoir les grands-parents juste à côté, ça peut aller mieux, mais...
C'est un placard humain, celui-là.
Bah oui, quand même, c'est même...
Non, c'est même normal.
Bien
normal.
Sûr. Jennifer est avec nous. Bonjour, Jennifer.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez 30 ans?
Oui, c'est ça.
Et vous voulez témoigner sur le sujet?
Voilà, j'ai deux enfants. Mm-hmm. J'ai deux enfants, donc ils ont 6 et 4 ans.
Oui.
Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu donc deux maternités. Deux fois, c'était différent. Ma première maternité, c'est vrai que pour reprendre une vie de couple, après un tel bouleversement, ça a été très dur. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon mari. Pour moi, ce n'était pas la priorité, on va dire.
Oui, c'est ça. C'est le fait d'être devenue maman, d'avoir votre bébé. C'était tellement fort, tellement beau, tellement extraordinaire qu'il n'y avait plus que ça qui comptait.
Il n'y a que ça qui compte. On devient maman poule. On pense qu'à ça la nuit. T'as pas entendu un bruit? Non. Ah non, on ne sait jamais et tout. Alors, quand on les donne aux grands-parents, on est tellement fatigué que moi, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'était pas facile. Par contre, quand j'ai eu mon fils, alors je sais pas, donc mon deuxième, je sais pas si c'est le fait d'être habituée, d'être maman. Quelques mois, c'est vrai qu'on est un peu, on est un peu fatigué. Mais après, c'est revenu. C'est revenu. Maintenant, mon couple est reparti comme avant. Même si c'est pas mieux, parce que c'est vrai que maintenant, je connais mon corps, ce dont j'ai envie. Mon mari me connaît, et c'est vrai que... Mais bon, c'est vrai que c'est un travail à faire. C'est quelque chose qu'il faut... Il faut travailler, quoi. Il faut s'écouter, il faut savoir parler l'un et l'autre. C'est vrai que...
Oui, et puis votre mari, sans doute, a été suffisamment compréhensif.
Voilà.
Parce que ça compte aussi, hein. On comprend, bien sûr.
Ouais. Et bon, après, j'ai eu de la... Enfin, je sais pas si j'ai de la chance ou pas. J'ai eu deux césariennes. Et c'est vrai que c'est pas la même chose, une fois qu'on prend tout ça... Bon on n'a pas. Moi, j'ai pas eu autant peur que je pense que si j'aurais eu des accouchements difficiles, voilà. Donc c'est vrai que après c'est revenu.
Là, je pense que vous fantasmez, Jennifer, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, sur l'accouchement, la césarienne. Il y a beaucoup d'idées comme ça. Chaque femme se fait une idée de ce que c'est, et puis finalement, chaque femme le vit à sa façon.
Le vit différemment. Oui. Non, mais c'est vrai que
je voulais dire une chose. Je crois que la première fois, vous avez un peu essuyé les plâtres, c'est-à-dire que pour votre premier enfant, vous n'étiez pas trop prévenue, et finalement, vous vous êtes débrouillée un peu vaille que vaille. Et finalement, vous vous en êtes sorti. Et puis la deuxième fois, vous aviez déjà une expérience qui vous a permis, comme ça, un petit peu d'avoir des repères et de pouvoir, comme ça, rééquilibrer votre couple et votre vie personnelle. Après, en effet, je crois que l'histoire de la césarienne, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est autre chose, ça.
Non.
Il y a des femmes qui ont très, très peur d'accoucher par voie basse, d'autres qui veulent absolument pas accoucher par césarienne. Là, c'est très personnel et ça ne rentre pas en ligne de compte dans la récupération d'une vie équilibrée dans tous les secteurs. C'est-à-dire, là, on parlait surtout du secteur amoureux.
Non, après, c'est... Alors oui, voilà. Non, moi, c'est vrai que Là, je suis bien. Je suis contente parce que c'est vrai que je me suis plus souciée pendant quelques temps. Mon mari aussi. C'est vrai que...
Mais après, je crois que ce que vous vouliez dire par rapport à la césarienne, et je crois que ça, il faut aussi que tout le monde l'entende, c'est que, d'une certaine manière, vous avez eu le sentiment que votre sexe n'a pas été abîmé.
Voilà,
hein, c'est ça. Voilà.
Et je veux dire, aller chez gynéco qui nous dit « Ah, vous êtes encore une jeune fille », assez bête, mais malgré tout, moi, ça me rassure. Enfin, je sais pas. On en avait tellement parlé, oula, tu vas voir après ça, ça va
oui,
être...
Oui. Mais c'est pour ça que je parlais de la fantasmatique de chaque femme, parce que y a tellement de choses qui se disent et qui sont parfois vraies, parfois fausses, et puis tellement individuel. Non, de toute façon, j'ai bien compris que c'était pas un choix. mais c'était, enfin, il me semblait que c'était important de relever pourquoi vous l'avez dit, parce que je crois que je vous avais reçu 5 sur 5.
Oui, je crois aussi, si vous voulez, concernant les complications qu'il peut y avoir éventuellement après un accouchement par voie basse, c'est évidemment les femmes qui ont eu des problèmes qui vont venir en parler. Et les autres en parlent pas. Je crois que si on regarde dans une consultation post-natale, on va dire, et même à distance, il n'y a pas tant de femmes que ça qui ont des problème au niveau sexuel, si vous voulez. Il ne faut pas exagérer ça. Donc, qu'on vous le rapporte.
Non, mais c'est comme sur les forums. C'est toujours les opérations qui se sont mal passées, qui donnent envie aux gens d'aller témoigner sur les forums, bien sûr.
Tout à fait, oui.
Oui.
C'est vrai.
Bah, écoutez, c'est un bon témoignage parce que ça commence de manière très positive. Donc, finalement, tout va bien.
Oui, ça va. Ouais. Ça, j'ai mis quelques mois à reprendre, on va dire. Et bon, mon mari, c'est le plus heureux. Je veux dire, là, il se dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Parce que c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup de soucis pour mon premier. Il se dit, bon, bah, elle s'est éteinte, quoi. Je m'étais un peu éteinte. J'avais l'impression d'être éteinte et que, voilà, j'avais pas envie, que j'avais pas ça dans la tête. J'avais envie, mais en même temps pas. J'étais fatiguée. Et pour mon deuxième, ben, comme si j'étais habituée, voilà, c'est revenu quelques mois. Et bon, bah, là, c'est. Je suis contente parce que voilà.
Une femme épanouie.
Voilà, épanouie dans tous les domaines. Je suis contente. Voilà.
Si vous voulez, moi je voulais juste rajouter une chose, c'est j'essaye d'œuvrer justement pour que les femmes qui ont comme ça des couples qui vont avoir un enfant soient averties un peu avant, vous voyez, parce que le fait que vous soyez un petit peu débrouillée toute seule la première fois, ben c'est très très bien, tant mieux. Mais on pourrait aussi arriver un peu plus près, et je crois que là il y a à faire, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas moi avec les gens qui m'entourent.
Voilà, après, sur votre blog également.
Aussi, les amis qui peuvent aussi en parler entre eux. Parce que moi, je le savais, hein, que ça allait pas. J'étais pas préparée, mais malgré tout, je sentais qu'il y allait avoir quelques petits changements.
Oui, mais c'est toujours. Je sais pas, Jennifer, parce que chacun va raconter sa propre histoire et va donc donner des injonctions pas forcément positives. Non, je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose. De même que les mères ont toujours en fonction de la manière dont elles ont accouché, vont transmettre aussi à leurs filles des peurs.
Oui. Je sais bien. Moi, j'ai une césarienne, elle a eu deux, et quand on m'a dit césarienne et qu'elle m'a regardée, qu'elle était devant moi. J'avais envie de lui dire tais-toi, parce que je sais ce qui va se passer. Il m'a assez raconté comme ça. Et elle s'en est même voulu, parce que je savais ce qui m'attendait. Donc au final, on a toujours ces témoignages qui nous restent en tête, au final.
Mais bien sûr, voilà. C'est normal.
Voilà.
C'est normal.
Voilà.
Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire à toutes les femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être pas encore eu d'enfant, qui ont envie d'en avoir, c'est que quand même, le bonheur d'avoir un enfant fait oublier les éventuelles difficultés de l'accouchement.
Ah, oui. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que le dépassement de
manière, je pense que comme on ne sait pas ce que c'est, à la base, quand on n'en a pas eu, c'est pas la peine de se mettre martel en tête, parce qu'on ne sait pas déjà comment ça va se passer. Donc, bon, après, c'est faire des illusions. Moi, je m'étais fait des illusions. Je vais accoucher, je vais prendre le bébé quand il va sortir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé différemment, mais malgré tout, j'étais heureuse d'être mère. Donc, de n'importe quelle manière quand ça peut se passer, n'importe quelle peur on peut avoir, le bébé est sur nous, ça efface tout. Moi je sais que ça m'a, dès lors qu'on m'a mis mes enfants sur le ventre, j'avais plus rien dans la tête, quoi. Il y avait que lui qui existait, et bon bah c'est un bonheur, hein. C'est un bonheur.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage très positif, Jennifer. Alain est avec nous maintenant. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Brigitte. Merci déjà de me prendre, c'est vraiment très, très gentil. J'écoute beaucoup votre édition et je n'imaginais pas forcément que j'allais vous appeler un jour. Et donc, mon épouse m'a quitté, m'a demandé le divorce il y a maintenant 3 mois. Mm-hmm. C'est un divorce qui se passe bien, on est en consentement mutuel, bon, tous les problèmes, je dirais, financiers, tout ça, tout se passe bien. Elle a quitté j'ai gardé le domicile conjugal, elle s'est réinstallée. Et par rapport à ça, dans un premier temps, je dirais pas que sa famille l'a laissé tomber, c'est pas le cas, mais pas tout à fait. Mais enfin, elle avait pris la décision, ils ont laissé un petit peu faire, du coup, elle s'est retrouvée un petit peu pas en panique. Du coup, je me suis initié là-dedans, j'ai été l'installer, monter ses meubles, enfin, voilà. Et du coup, j'ai 10 ans qu'on était ensemble, 8 ans mariés, 10 ans ensemble. C'était un peu perdu pour plein de raisons, enfin bref, et du coup on s'est retrouvés à échanger, à passer du temps ensemble, et puis de là, on est à peu près à 2 mois de séparation, de ce qu'on annonce, et là, elle m'a dit une ou deux fois, je vois plus le divorce de la même manière, et aujourd'hui elle me dit, je veux rester en contact avec toi,
Donc, vous avez repris des relations sexuelles ensemble ou pas ?
Non.
Bon. Non, parce que ça c'est quand même le point important, hein, qu'il faudrait peut-être éventuellement avoir pour penser qu'il puisse y avoir un peu d'espoir. Mais quoi qu'il en soit, Alain, moi, je vous conseillerais de continuer le divorce.
Oui.
Vous voyez, de manière à marquer le coup, il sera toujours temps de vous remarier dans 5 ans ou dans
oui,
un
oui,
an.
Oui, Brigitte, oui.
Vous voyez
non,
parce
mais
que...
je suis très perturbé, Brigitte. Pardonnez-moi, je vous coupe hier.
Oui, je vous en prie.
Hier, c'était la fête des mères et elle m'a envoyé un petit message en me disant que c'était bien, le compte est gelé et tout. J'y suis allé et du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois que je la vois, je morfle derrière, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, qu'elle me dise, je veux qu'on reste en contact. Hier soir, elle m'a envoyé un ou deux textos en me disant, je veux, écoute, prenons le temps, redécouvrons-nous, ne brûlons pas les étapes, parce que c'est vrai qu'au début de...
Oui, oui, mais Alain, pour l'instant, vous avez beaucoup donné, et en échange, vous recevez pas grand-chose quand même, hein, il me semble. Donc, il faut rester prudent. Alors, c'est vrai que vous avez de l'espoir, et après tout, pourquoi pas, hein, on peut penser, Ugraine, qu'il y a peut-être encore beaucoup d'affect.
Oui.
Mais il faut voir si, derrière cet affect, c'est pas que de l'amitié, ça peut être aussi de l'affect d'amour charnel, quoi.
Oui, ce qu'il faudra voir, c'est justement si les problèmes qui ont fait le divorce, petit à petit, vous trouvez des solutions. Mais pour l'instant, en effet, moi, je suis vraiment d'accord avec Brigitte, pas se précipiter, continuer sur l'axe que vous aviez, sans fermer la porte totalement, mais ne pas se précipiter, oui.
Non, mais je me précipite pas, mais je suis vraiment très perturbé par le fait qu'elle dit je veux qu'on reste en contact. Alors, j'en parle autour de moi, et beaucoup de gens me disent, Alain, protège-toi, coupe, ne la vois
non,
plus.
Mais alors moi, c'est pas ce que je vous conseille, parce que vous avez l'air d'y être attaché, et après tout, si vous coupez, vous risquez en effet, de toute façon, de ne pas pouvoir reprendre. Donc, de maintenir un lien affectif, amical, c'est très bien, mais parallèlement, moi, je vous conseillerais de maintenir un lien un peu plus intime, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez un peu l'embrasser, est-ce que vous pouvez la prendre dans vos bras, enfin il faut aussi qu'il y ait ça, parce que sinon vous êtes le bon copain, la bonne poire qui l'aide, et puis vous avez rien en retour. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est adorable, je veux dire, c'est pas une femme vénale, c'est pas une femme, et en plus je la redécouvre dans sa manière simple, si vous voulez, et c'est ce que j'avais aussi perdu, et je sais qu'elle veut pas me faire de mal, alors ce qui est fou, c'est que quand elle m'a annoncé le divorce, elle était convaincue que j'en aurais rien à foutre, quoi.
Ben, il est clair dans ce que, non mais Alain, il est clair dans ce que vous racontez qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé entre vous parce qu'il y a eu une mauvaise communication, parce que vous ne vous êtes pas compris sur plein de points, et que quelque part il reste entre vous de une affection profonde. Maintenant, est-ce que cette affection profonde peut redevenir de l'amour et vous pouvez dépasser tout ce qui a provoquer cet éloignement, ça on peut pas, nous on peut pas vous le dire, hein. Mais moi je pense qu'il faut quand même maintenir l'idée du divorce pour aller au bout de sa demande. Il sera toujours temps, je vous dis, si vous arrivez à avoir à nouveau des relations sexuelles, parce que c'est ça qui montrera qu'il y a à nouveau de l'amour entre vous, au fond.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que en fait, dans sa façon d'aborder les choses, elle pensait que vous n'avez rien à faire, donc que vous l'aimiez plus, et que donc peut-être que là, vous lui montrez un certain nombre de preuves d'amour, et que du coup, ça l'amène à réfléchir, et que ça, ben ça peut faire sa route, en effet, dans la direction peut-être d'une reprise de ce couple.
Voilà. Puis là, vous avez du bol parce que visiblement tout son entourage familial la laisse un peu tomber. Donc vous êtes le sauveur, et ça, pour une femme, c'est toujours un très très bon point. Voilà. Bon courage, Alain. Mais faites attention, bien sûr, protégez-vous quand même. C'est là où vos amis ont raison, mais on peut se protéger en restant quand même présent. C'est un juste milieu à trouver. L'onde positive du jour, je vous propose de vous pencher sur vos propres valeurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent l'impression que ce sont nos valeurs. Bien sûr, les mœurs, hein, les mœurs d'une société, la morale actuelle, l'éthique. Et tout ça, ça peut varier. Et dans tout ça, on ne sait plus très bien où se trouvent nos propres valeurs. Et je crois que ça mérite toujours de bien y réfléchir.
Alors ça tombe très bien, Brigitte, parce que le dernier petit film que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'était... ce qui est normal, c'est ce dont on a l'habitude.
Ah oui,
donc,
oui,
donc
oui.
Il revient exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, on ne réfléchit plus par nous-mêmes, mais on réfléchit en fonction d'un contexte historique, d'un contexte social, d'un contexte humain, d'un contexte voilà. Et que du coup, réfléchir dans son intime conviction, quelles sont nos valeurs, ça me paraît quelque chose d'essentiel. En tout cas, dans ma réflexion à moi, c'est ce que je fais.
Je crois que c'est vraiment très important. Et c'est là-dessus aussi, d'ailleurs, que se reposent beaucoup les couples qui durent, hein, quand il y a des valeurs communes, des vraies valeurs communes. Sinon, ça provoque souvent des conflits. On se retrouve dans quelques instants et vous pouvez bien sûr, vous aussi, nous appeler au 3216 pour témoigner ou poser vos questions à Ugraine si vous avez envie d'avoir ces lumières. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, la haie, l'amour et vous. Détendu, timide, libéré, extraverti, décomplexé ou exubérant, tous chez Brigitte sur RMC.
Couple d'amants, couple de parents, on en parle avec Ugraine qui est avec nous aujourd'hui, spécialiste des traitements de l'infertilité, gynécologue et auteur de nombreuses naissances. Oui. Vous avez mis combien d'enfants au monde dans votre vie, Ugraine?
Alors moi j'en ai mis aucun, mais j'ai beaucoup aidé à en
oui,
mettre.
Oui, mais c'est bien sûr. Mais
alors oui, je sais, là dont le chiffre je l'ai pas, j'avais comptabilisé un moment, mais je dois être à quelques milliers sûrement. Mais
oui,
je sais
oui
pas.
J'imagine. Olivier est avec nous, bonjour Olivier.
Bonjour Brigitte, bonjour Hugues.
Bonjour.
Alors, vous avez 43 ans et vous voulez témoigner donc sur le sujet. Et vous pensez que c'est vraiment important que les deux parents soient désireux d'avoir cet enfant, hein.
Bah, disons que oui, c'est important que les deux parents soient désireux d'avoir l'enfant et puis considèrent cet enfant comme une évolution dans leur vie, pas comme un chambardement qui va tout modifier de A à Z. Et je pense que lorsqu'on a un enfant, bah, c'est une évolution.
J'aime bien ce terme d'évolution, oui.
Ouais, bah c'est la vie qui évolue. Lorsqu'on a un enfant, c'est un truc en plus, avec des joies en plus, des peines en plus, des contraintes en plus, mais voilà, un élément supplémentaire, et ça annihile pas tout ce qu'on a construit avant et les fondements sur lesquels on a fait son couple et on a fait ce pourquoi on s'aime et pourquoi on a eu ce désir d'enfant. Moi, je sais qu'avec mon ex-femme, c'est un des trucs qu'on a bien réussi, c'est-à-dire qu'on était très amants avant d'avoir un enfant, et on a été très parents après avoir eu cet enfant, mais on n'a pas oublié de continuer à être très amants et à faire plein de choses ensemble. Il y a plein de solutions, il y a des nounous, il y a de la famille, il y a des babysitters, il y a des choses qu'on peut faire à deux en incluant aussi la participation de l'enfant, même petit. Ça demande quelques aménagements, mais voilà. Mais ce qui est important, c'était d'en discuter aussi avant et de savoir pourquoi on veut cet enfant. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'être très amoureux de mon ex-femme et qu'elle soit très amoureuse de moi, que c'était vraiment un enfant de l'amour et donc qui n'a pas tué notre couple. Voilà. Qui n'a pas tué ce qui faisait notre 1 plus 1. Voilà.
Je pourrais dire que vous n'êtes plus ensemble quand même, Olivier.
Non.
Mais ce serait de l'humour mal placé.
Ça serait pas gentil, Brigitte.
Je suis d'accord. C'est pour ça que je ne le dis pas.
Non, mais la raison pour laquelle on n'est plus ensemble n'est pas liée à ça.
Mais je sais bien.
Et j'ajouterais que notre séparation vis-à-vis de notre fils s'est extrêmement bien passée. Ça se passe encore très bien aujourd'hui. Où on a des rapports de complicité, entre guillemets, dans l'intérêt de notre enfant et de notre fils.
Mais on sent. Et j'en suis absolument certaine parce qu'on l'entend dans votre témoignage que les choses sont claires, hein, pour vous. Et c'est peut-être ça aussi, Ugraine, qu'il faut expliquer aujourd'hui. C'est quand on est assez clair avec soi-même sur l'amour qu'on porte à l'autre, sur son désir d'enfant, sur ce qu'est la vie, la responsabilité que ça représente d'être parent. Parce que ça aussi, ça compte, j'imagine, non?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que votre description de l'arrivée de l'enfant, elle est géniale, c'est parfait, je ne peux qu'acquiescer. Mais dans la réalité, pour la plupart des couples, ça se passe pas comme ça, si vous voulez. C'est ça le problème, c'est que vous êtes arrivé avec peut-être la maturité qu'il fallait, le couple équilibré qu'il fallait, mais dans la réalité, c'est rarement aussi beau. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je prône vraiment pour un accompagnement, pour qu'on se prépare, qu'on sache à quoi s'attendre. Ne serait-ce qu'un point, si je puis me permettre, mais par exemple, dans la façon dont on élève un enfant, dont on s'occupe d'un enfant, très souvent, les couples ne mesurent pas qu'il y a des choses totalement inutiles à faire et des choses utiles en fonction de l'âge. Et quelquefois, ils se prennent la tête, je dirais, avec des problèmes qui n'en sont pas. Par exemple, le fait qu'on s'imagine que les petits-enfants font des caprices, ce qui est impossible avant 4 ans. Donc on dit, si je le prends trop, il va faire des caprices. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas la structure psychique qu'il faut. Ils ne savent pas ce que c'est que le mensonge, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses.
Oui, donc là, c'est l'interprétation des parents qui font qu'ils croient que l'enfant fait un caprice à l'âge de 2 ans, alors que...
C'est impossible. Non. Donc c'est, par exemple, c'est quelque chose qui maintenant, en principe, tout le monde sait, mais quelquefois qu'on ne sait pas autant que ça. Oui. Mm-hmm.
Bon, en tout cas, merci Olivier de ce témoignage positif. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Emma est avec nous maintenant. Bonjour Emma.
Bonjour Brigitte, bonjour Hugues.
Bonjour.
Alors, vous avez, vous avez 35 ans et vous aussi, un peu comme Jennifer, hein, ça n'a pas été aussi simple que ça de retrouver votre, votre vie de maîtresse.
Je la cherche toujours. Je la cherche toujours, j'ai envie de dire. Oui, moi, j'ai une fille de 3 ans, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans mon couple, en fait, j'ai vraiment vécu cette, on va dire, dans mon couple, la relation maîtresse-amant, où c'était, voilà, on s'entendait vraiment très, très bien, surtout sur le plan sexuel. Et aujourd'hui, depuis, en fait, depuis que j'ai eu ma fille, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Donc, de mon côté, en tous les cas, c'est très, très difficile. Et je voulais justement revenir sur ce que disait l'auditeur d'avant, en disant ça se discute, ça se prépare. Je crois que tant qu'on ne le vit pas, parce que j'ai eu vraiment l'impression, j'ai eu ma fille à 32 ans, tant qu'on ne le vit pas, on a beau préparer, on fait des plans sur la comète, le jour où ça arrive, c'est vraiment différent, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vis-à-vis de votre compagnon?
Alors, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que ma fille a pris vraiment une place très, très importante et j'ai du mal. J'ai l'impression, en fait, d'avoir, pas de plus avoir de sentiments parce que je pense que je l'aime profondément, mais comme une perte de libido, en fait. Et j'ai du mal à avoir des relations.
Et est-ce que ça vous arrive de sentir un peu de désir pour quelqu'un d'autre, par exemple?
Eh ben, pas du tout, justement. C'est ça qui est.
D'accord.
Donc vous avez. Justement, je suis vraiment attirée par personne d'autre. Et je sais que, enfin voilà, j'irai pas voir ailleurs. Ça me traverse même pas l'esprit. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir mis un voile sur ma sexualité, sur ma libido, quoi.
Bah, c'est-à-dire que toute votre libido est passée dans la sublimation vers votre fille, hein.
Ouais, alors comment fait-on pour essayer en tous les cas de retrouver
déjà
ça,
déjà en avoir envie de retrouver de la libido pour votre homme et ensuite de bien comprendre et bon visiblement vous avez appelé, ça veut dire que quelque part vous êtes consciente quand même de
bien sûr tout ça. Ah, je suis mais totalement consciente et j'en discute en fait avec mon chéri, on en discute, on sait, il est patient et j'en merci d'être patient. Je sais qu'il vous écoute, il est dans les bouchons en ce moment. Donc, on en discute beaucoup. C'est difficile. Moi, je me reconnais plus, en fait, en tant que. J'ai du mal à me retrouver en tant que femme. Et je sais que j'étais très féminine, que je prends. Enfin, j'essaye toujours de prendre soin de moi. Hein,
À mon avis, Emma, il y a dû y avoir une relation tellement fusionnel avec votre propre mère que vous êtes en train de revivre ça. Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, peut-être.
Alors, c'est pas faux. Oui.
Je crois que vous avez aussi, plus que la libido, vous avez aussi perdu le plaisir personnel. C'est-à-dire que la libido, c'est l'endroit où s'exprime notre plaisir avec le sexe, avec l'autre et avec l'autre sexe. Mais je crois que globalement, vous êtes tellement préoccupé, pas préoccupé, mais aimant votre enfant, que vous oubliez vous-même dans votre aptitude et votre dégustation du plaisir dans la vie quotidienne et dans la sexualité de couple. Et donc, c'est remettre du plaisir dans votre vie, d'abord dans la vie courante, et puis ensuite, ça va bien évidemment arriver sur la partie sexualité dans votre couple.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à être séparé de votre fille juste pour vous?
Non.
Bon. Donc, voyez.
Je me sépare en 3 ans. Ma fille a été gardée 2 fois. Bon. Par ses grands-parents.
Ben oui, et donc c'est ça qu'il va falloir. Il va falloir un peu de frustration dans cette relation très très fusionnelle, et ça sera vraiment nécessaire parce que si vous continuez comme ça, vous allez en faire une petite fille infernale quand elle aura 5-6 ans.
Hein. Ouais, elle est géniale.
Pour l'instant, parce que pour l'instant, elle n'est pas dans l'opposition. Elle est dans la fusion avec vous, et c'est quelque. Mais c'est, je le comprends tout à fait. C'est quelque chose de complètement idyllique. Moi, j'ai ça avec mes chiens. Hein. Donc je.
Non, mais... S'il vous plaît, Brigitte, c'est un peu différent quand même.
Mais oui, c'est bien sûr que c'est différent dans les faits, mais dans ce que l'on ressent, c'est comme la fusion quand on est passionné au début dans une relation de couple, c'est pareil. On a l'impression qu'on ne fait qu'un, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sûr qu'avec un enfant, c'est là où ça prend, c'est là où les neurones miroirs fonctionnent le mieux. Donc c'est normal que ce soit si bon et que ça ne laisse plus aucune place pour du plaisir autre.
Mais vous savez, madame, il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi entendre, si je puis me permettre, c'est que l'enfant, il n'a pas besoin de sa maman 24 heures sur 24. Il a besoin que sa maman s'épanouisse dans tous les secteurs de sa vie, le secteur amoureux, le secteur personnel de ce qui vous épanouit, vous, en tant qu'être individuel et non pas en tant qu'amante ou en tant que maman. Et ça, c'est très important, parce qu'autrement, on s'imagine que se dévouant à l'enfant, c'est bon pour l'enfant. Bah, c'est finalement, au bout du compte, que ça dure un temps, ça va, mais si ça dépasse un certain temps, alors du coup ça fait que vous avez une mauvaise image de vous, vous avez pas votre propre plaisir, et ça nuit finalement aussi à l'éducation de l'enfant.
J'entends parfaitement, et vous avez raison, et j'en suis parfaitement consciente. Maintenant, c'est vrai que voilà, je sais que je vais avoir besoin aussi, peut-être pour réanimer cette flamme d'une certaine façon. Je sais que mon compagnon n'était pas très démonstratif, par exemple. Donc, cette démonstration-là, à l'époque où je n'avais pas ma fille, quelque part, je la trouvais l'extérieur, beaucoup, parce que voilà, je sentais que je plaisais, etc. Mais j'étais ouverte à ça aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais plus besoin, je sollicite justement, je lui dis, de me montrer, d'être un petit peu plus démonstratif pour essayer de me motiver quelque part. Ce serait un petit coaching personnel.
Non, mais vous avez raison. Moi, je vous propose un deal que vous pourriez faire avec lui. Chaque fois que vous pouvez, pendant une après-midi ou une soirée, laisser votre fille à garder, vous mettez un bon dans une tirelire. Et lui, à chaque fois qu'il y a un bon dans une tirelire, il doit faire quelque chose pour vous. Et comme ça, bon an, mal an, vous allez vous retrouver.
D'accord, mais le bon, sur le bon, c'est moi qui écris, est-ce qu'il doit faire sur le bon?
Ah si vous voulez, oui, pourquoi pas, hein, après tout. Ça peut être une bonne idée, non?
Oui, très bonne idée. En tous les cas, j'y travaille et c'est vrai que je voulais simplement dire, et ce sera la conclusion parce que je veux pas prendre trop l'antenne, mais que c'est pas si évident que ça et c'est vrai que il n'y a pas de règle, qu'on s'y prépare pas. Moi, je pense que justement, j'ai vécu aussi, j'ai attendu 32 ans pour avoir mon premier enfant, donc ça a été quelque chose de réfléchi, de mûri. Et quoi qu'on en dise, on se rend pas compte en fait comment ça peut justement nous chambouler, nous perturber, et on ne sait pas exactement comment ça se passera. Moi, je me souviens que je me disais non mais moi je resterai amante, c'est ça la clé justement pour conserver son mari et d'essayer d'avoir.
C'est justement parce que vous avez une forte libido qu'elle s'est complètement sublimée avec votre fille.
Oui, je voulais juste dire une chose, si vous voulez. C'est pas aussi simple que ce que vous dites, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, pour moi, il faut vraiment se préparer, mais en sachant qu'après, il faut être accompagné, parce que mettre en pratique ce qu'on a appris, c'est pas si simple que ça. Et en effet, la vie n'est pas exactement ce qu'on a prévu. Donc tous ces paramètres font que, à mon avis, on doit se préparer, je répète, mais on doit aussi se faire accompagner. Et ce qui me semble, c'est que vous auriez besoin d'un accompagnement pour reprendre votre vie de couple, avec les conseils que Brigitte vous a donnés, mais avec un suivi aussi.
Merci en tout cas, merci beaucoup Emma. Notre fil d'Ariane, certaines femmes tombent enceintes de leur conjoint alors que celui-ci est déjà mort. Il y a du fantôme là.
C'est ce qu'on appelle les bébés post-mortem, pardon. Et c'est vrai que c'est un sujet très délicat où les pays ne sont pas d'accord au niveau de la loi.
Mais donc ça voudrait dire qu'ils ont fait l'amour la veille ou l'avant-veille.
Alors
c'est ça,
je ne pensais pas à ces cas-là.
Non, c'est l'assimilation.
Mais voilà, c'est plutôt les gens qui congèlent leurs embryons. Oui. Les paillettes de sperme.
Ça, la loi française, pour l'instant, ne
l'interdit
pas.
Voilà, pour l'instant, l'interdit, mais le cas de Kristen Tripson, américaine de 34 ans, elle fait parler d'elle parce que elle est enceinte de 17 semaines de son défunt mari, Sam, qui est mort donc il y a 6 mois. En 2012, sachant qu'il était condamné, ils avaient décidé de congeler des embryons. Et puis, là, le 28 octobre prochain, elle va pouvoir accoucher de cet enfant qui a été fait après la mort finale finalement, enfin, du moins, elle a reçu les embryons une fois que le mari a été mort. Alors, que dit la loi exactement en France, évidemment, sur cette procréation post-mortem? Je me suis renseignée. Les demandes d'insémination post-mortem sont déjà assez rares en France. Et le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme chiffre cela à une vingtaine de demandes environ. Et il y a une loi.
C'est très peu, oui.
C'est très peu. La loi du 29 juillet 1994 qui réserve l'assistance médicale à la procréation, ce qu'on appelle l'AMP, aux parents vivants et en âge de procréer. Donc ce cas de Kristen Tripson, pour l'instant, ne serait absolument pas possible en France. Et récemment, justement, il y a cette affaire, Ugrim, vous en avez peut-être entendu parler, de cette Espagnole qui a vécu pourtant en France, voilà pourquoi ça nous concerne, Mariana González, qui réclame à présent le transfert vers l'Espagne, où elle réside actuellement, du sperme congelé de son mari défunt pour pouvoir effectuer une insémination. Cette procédure est jusqu'alors interdite en France, on vient de le dire. Seulement voilà, elle n'est pas française, son mari défunt n'était pas français, mais au moment où ils ont congelé les paillettes de sperme, ils vivaient tous les deux en France et le sperme a été congelé en France. Et voilà pourquoi la France est concernée dans ce cas-là. Alors tout récemment, vendredi dernier, vous avez le rapporteur public Aurélie Bretonneau qui s'est déclarée favorable exceptionnellement au transfert du sperme en Espagne, évoquant, je le rappelle, une situation exceptionnelle à l'AFP. Mais d'un autre côté, vous avez l'agence de biomédecine et l'hôpital Tenon, qui sont représentés par l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, qui sont contre. Et si le délibéré, qui va tomber là dans quelques jours du Conseil d'État, s'avère négatif, Mariana González Gómez prévoit cette fois de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors c'est vrai que là c'est un cas un peu particulier. Ouais. En effet, si on autorise ça, c'est aussi encore une fois la porte ouverte.
Oui.
Moi la question toujours que je me pose, c'est comment, bon, je comprends que c'est terrible d'avoir perdu son mari, mais comment on peut vouloir absolument l'enfant de la réparation? Enfin, moi, ça me paraît toujours assez dangereux. C'est, je ne sais pas bizarre, ce que vous en pensez, Ugrain.
C'est quoi l'intention de faire ça?
Oui, parce voilà, c'est ça.
Quel est le fonctionnement psychique qu'il y a derrière cette demande? Et là, ce serait très intéressant d'élaborer d'abord tout ça avant de se lancer dans quelque chose qui peut être préjudiciable, même pour l'enfant d'ailleurs.
Bah, pour l'enfant et même pour la vie de la femme, parce qu'on imagine bien si elle a un enfant avec un mari décédé, ça va être compliqué pour elle de se retrouver un autre homme. Enfin,
voilà, mais ça, à la limite, c'est son problème, mais je pense que... Bon, mais c'est vrai
oui,
que
mais c'est un problème pour l'enfant, parce qu'il va être élevé par une mère complètement...
Pour l'enfant, pour la mère, et pour les frères et sœurs qui existent aussi parfois déjà. Là, ça fait encore
en plus, oui,
une rencontre particulière.
S'ils ont déjà eu des enfants avant, je ne suis pas sûre qu'ils veuillent absolument... Qu'elles veuillent, pardon, puisque c'est forcément que des femmes. Absolument.
Alors là, Kristen Tripson, la première dont je vous ai parlé, l'américaine, a déjà deux enfants, Jack 5 ans, Alice Anne 2 ans, et elle est enceinte du troisième. Et elle est tombée enceinte une fois que son mari a été mort.
Et pourquoi pas un quatrième et un cinquième après?
Bah, voilà, il y a plus de limites.
Enfin, Ugrain, vous qui travaillez.
C'est un peu la mort, plutôt que de la vie. C'est fait pour la vie, tout ça, donc pourquoi pas? C'est bizarre.
En tous les cas, pour vous faire un rappel, les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont pour demandent quand même le consentement du futur défunt. Ceux qui interdisent cela.
C'est intéressant, le futur défunt. Comment on demande au futur défunt?
Quand on sait qu'il est condamné, qu'il vit ses derniers jours, qu'il est en phase terminale d'un cancer, par exemple, ce qui était le cas du mari de Kristen Tripson, on demande son consentement. C'est interdit en Allemagne, au Danemark, en Italie, en Suisse, en France, évidemment, et puis autorisé aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Bien. Bon, ben on va essayer de rester en vie quand même. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez bien sûr donner votre avis ou témoigner hein, si le sujet vous a concerné de près ou de loin. Au 32-16, à tout de suite.
RMC, 14h-16h, L'AL, l'amour et vous. RMC, L'AL, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Ugrain est avec nous et on évoque la relation d'amant, la relation de parents et comment passer de l'un à l'autre. On a vu que pour certains c'était relativement facile et pour d'autres bien sûr un petit peu plus compliqué. En tout cas c'est Nicolas qui est avec nous et on va vous revenir sur les femmes fontaines je crois avec vous Nicolas, bonjour.
Oui bonjour, c'est Malicia en fait, la copine de Nicolas.
Bon, et ben bonjour Malicia alors.
Bonjour.
Et on vous écoute alors.
Oui, alors en fait, Nicolas arrive à me faire faire fontaine, uniquement avec un cunnilingus sans pénétration, sans doigts, sans rien. Donc on voulait savoir si c'était normal.
Bah écoutez, en ce qui vous concerne, oui, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Maintenant, normal, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce terme normal quand on parle de sexualité? Je pense que vous avez, une forte jouissance, un fort lâcher-prise, et voilà tout. Mais il n'y a rien de, enfin en tout cas, il n'y a rien d'anormal, ça c'est sûr.
Absolument. En plus, les femmes fontaines, ça peut arriver avant l'orgasme, avant la jouissance, hein, ça peut être en cours d'excitation. Donc c'est pas forcément lié au point culminant.
Absolument.
Donc c'est bien.
D'accord. Ok. Après c'est vrai que nous on avait fait des recherches par rapport à ça et on a vu que c'était suite au point G, enfin en fait quand il titille le point G. Et lui comme il n'y a pas du tout de pénétration, de doigts ou quoi que ce soit, le point G finalement n'est même pas sollicité en fait.
Non, mais le point G en sorte, hein, si on schématise un petit peu, c'est les racines du clitoris. Donc, si vous êtes très sensible et si le clitoris est très, ça provoque exactement la même chose d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a rien de d'anormal, encore une fois.
Et puis il y a aussi la composante psychique, il y a ce qui nous excite psychiquement, qui agit aussi profondément sur le sexe et sur la sécrétion et sur le fait d'être femme fontaine. C'est pas uniquement il y a le frottement mécanique bien évidemment, il y a l'excitation bien sûr neurologique, mais il y a aussi l'excitation psychique.
Mais ce qui est clair, Malicia, et ça, c'est là, vous pouvez essayer de mieux le ressentir encore, comme ça vous comprendrez mieux ce qui se passe. C'est qu'à mon avis, à certains moments de votre plaisir, hein, vous devez avoir un sentiment de relâchement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si tout d'un coup vous ouvrez, vous vous lâchez, et c'est à ce moment-là qu'il y a des jets qui peuvent arriver.
D'accord, ok. Donc il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées par ça, c'est-à-dire sans pénétration, qu'elles peuvent devenir fontaines.
Obligatoirement, oui.
Ah oui, il y en a, bien sûr. Ça, je confirme. Bien sûr.
Combien, je n'en
non,
sais
les
rien.
C'est difficile, mais il y en a.
Bien sûr. Et encore une fois, moi, je le répète, on avait beaucoup sous-estimé le nombre de femmes capables d'être fontaines.
Oui.
Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de femmes, beaucoup plus que les 5 ou 10% dont on parlait il y a 30 ans.
Hein. Et puis, il y en a qui le sont de temps en temps, il y en a qui sont plus fréquemment, c'est très variable. Il y en a qui l'ont été une ou deux fois dans leur vie, puis qui ne le sont plus, on ne sait pas trop pourquoi.
Puis il y en a d'autres à qui ça arrive plus tard.
Voilà.
Mais encore une fois, il n'y a rien de. C'est profitez-en. Si ça ne vous dérange pas, profitez-en. Voilà.
D'accord. Alors, il n'y a pas de problème. On s'amuse bien.
Et amusez-vous bien. Merci beaucoup, Malicia, en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
On se retrouve tout de suite après les infos. On va évoquer encore tous les sujets qui vous intéressent. Profitez-en puisque nous avons un spécialiste du corps féminin avec nous, puisque Ugraine reste avec nous après les infos.
RMC, 14h-16h, la L'amour et vous.